La National Security Agency, entre sécurité intérieure et surveillance de masse. Durant la guerre du Vietnam, la NSA mène également des opérations de surveillance sur son propre territoire. Tout cela dans le plus grand secret. Nom de code, Minaret. Objectif, surveiller les communications téléphoniques de plusieurs personnalités notables, tels que les sénateurs Frank Church et Howard Baker, ainsi que des leaders clés du mouvement des droits civils comme Martin Luther King Jr. et tout autre opposant à l'engagement des Américains dans cette guerre. Plus tard, quelques membres du gouvernement ont demandé un examen complet de cette nouvelle opération, avant de conclure que ce système de surveillance était parfaitement illégal. Plus de 5900 étrangers et 1600 citoyens américains sont concernés par ces opérations de surveillance illégale. Cette surveillance fait l'objet d'une audition au Congrès en 1975. Elle est menée par le sénateur Frank Church. Le comité Church a auditionné plus de 800 témoins en 9 mois, mettant en lumière des programmes secrets de la NSA comme l'opération Shamrock ou le plan Houston. Shamrock était un programme de surveillance opérationnelle pendant 3 décennies, au cours duquel la NSA avait accès aux enregistrements des télégrammes internationaux des 3 principales compagnies américaines de télécommunications. Initialement conçu pour obtenir des renseignements sur les agents étrangers, le programme s'était étendu au fil du temps à la surveillance des citoyens américains. Le programme Houston, quant à lui, était à l'initiative de la Maison-Blanche sous Nixon. L'opération visait à une surveillance extrême des militants de gauche par le biais de cambriolages et de surveillance électronique, ainsi que la création envisagée de camps de détention domestiques sur le territoire américain pour les manifestants anti-guerre. Compte tenu de l'opposition du directeur du FBI, J. Edgar Hoover, le plan a finalement été abandonné. Durant l'audition du comité Church, il a été démontré que la NSA a collaboré avec l'agence de renseignement britannique, GCHQ, pour intercepter des communications de personnalités internationales. Après la démission du président Richard Nixon, des enquêtes sont lancées sur des soupçons d'utilisation abusive des installations du FBI, de la CIA et de la NSA. Elles conduisent à la révélation de complots politiques, dont un orchestré par la CIA, à l'époque où elle était sous l'administration John Fitzgerald Kennedy. Une opération avortée visait à assassiner le président cubain Fidel Castro, un dirigeant communiste farouchement opposé aux intérêts des États-Unis. Tout ceci conduit à l'adoption du Foreign Intelligence Surveillance Act en 1978, ou FISA. Cette loi permet de restreindre la pratique de la surveillance de masse aux États-Unis. Depuis sa création, la FISA a été modifiée à plusieurs reprises, notamment après les attentats du 11 septembre 2001, avec le USA Patriot Act, qui a élargi les pouvoirs de surveillance. Des amendements ultérieurs, tels que le Protect America Act de 2007 et le USA Freedom Act de 2015, ont également modifié les procédures de surveillance pour répondre aux préoccupations croissantes concernant la vie privée et la transparence. Pour les détracteurs de l'agence, la FISA n'aurait jamais été appliquée. Les contrôles de la NSA auraient été défaillants et inopérants. Dès lors, la National Security Agency perd toute crédibilité aux yeux de certains citoyens. Elle est qualifiée par certains Américains d'entité maléfique, ayant la volonté de restreindre les libertés individuelles et de justifier les conflits. En 1986, la NSA intercepte les communications du gouvernement libyen, juste après l'attentat à la bombe contre une discothèque de Berlin. Ronald Reagan y voit la preuve de l'implication de la Libye dans l'attentat. Selon les journalistes, ce serait une bonne excuse pour justifier le bombardement de ce pays du Moyen-Orient par les États-Unis en 1986. Dans les années 90, l'agence cherche à redorer son blason. Elle tente des approches plus coopératives avec différentes structures publiques. Brian Snow, directeur de l'Information Assurance Directorate, l'EAD, la branche défensive de la NSA, pilote un projet visant à soutenir un processus transparent de remplacement de la norme de cryptage des données par une norme de cryptage avancée. Annoncé de cette façon, cela ne veut rien dire, à moins d'être un expert en cryptographie à courbe elliptique. Cependant, cela illustre la première et importante approche coopérative entre une agence gouvernementale, ayant toujours demeuré dans l'ombre, et le monde scientifique et universitaire. Est-ce que cette opération a pu changer sensiblement l'opinion publique sur la NSA ? Ce ne sont pas les événements politiques des années 2000 qui pourront répondre positivement à cette question. Après les attentats du 11 septembre, la NSA doit prendre des mesures à la hauteur de la menace terroriste mondiale. Elle crée de nouveaux systèmes informatiques de surveillance pour répondre à la démocratisation des nouveaux moyens de télécommunication. Internet dans les foyers est en plein boom. C'est une révolution à double tranchant. Parmi ces nouveaux systèmes de traitement de l'information, on retrouve ThinThread. Ses fonctions premières sont de crypter les informations sensibles pour protéger la vie privée. Le système est capable de trier efficacement d'énormes volumes de données téléphoniques et électroniques pour repérer les menaces potentielles. Il identifie les numéros américains, crypte les données pour la confidentialité et contrôle l'utilisation des informations par les analystes pour prévenir les abus. Les données ne sont déchiffrées qu'en cas de menace confirmée. Un beau programme, en somme. Du moins, sur le papier. La collecte massive de données engendre des fausses alertes, épuisant les ressources des analystes et menant à des impasses. Le général Michael Hayden met fin au projet, malgré des premiers essais concluants. Il lance un nouveau programme top secret appelé Trailblazer. Trailblazer voit le jour en 2002. Il est développé par plusieurs entreprises, dont Science Application International Corporation, SAIC, Boeing, Computer Science Corporation, IBM et Litton Industries. Son objectif principal est une surveillance d'organisations et d'individus ciblée sur la base de leurs échanges de mails ou de conversations téléphoniques. En quelque sorte, une mise sous écoute permanente, sans l'obligation d'obtenir de mandat, sur la base de simples suspicions. Quelques mois seulement après son lancement, les premières plaintes sont déposées. Elles proviennent d'anciens employés de la NSA, dont Bill Binet, l'ancien analyste principal de la NSA, et Ed Loomis, l'analyste principal des systèmes informatiques. Ce dernier avait par ailleurs quitté l'agence en raison de sa mauvaise gestion des acquisitions et à des accusations d'activités d'espionnage présumées contre des citoyens américains. Un autre plaignant, Thomas Drake, a signalé des problèmes assez supérieurs au sein de la NSA, soutenant que ThinThread était préférable à Trailblazer pour la protection de la vie privée des citoyens américains. En 2003, l'inspecteur général de la NSA a qualifié Trailblazer de projet coûteux après avoir constaté une dépense astronomique de 1 milliard de dollars. En 2005, l'inspecteur général du DOD, pour Definition of Dawn, l'équivalent en France du contrôleur qualité, juge que le projet Trailblazer n'est pas à la hauteur des attentes. Les résultats ne justifient pas son coût. La même année, le projet Turbulence remplace Trailblazer. Ce programme se compose de deux systèmes, Turmoil et Turbine, ayant chacun des fonctionnalités spécifiques. Turmoil est dédié à l'identification des personnes considérées comme des sujets d'intérêt potentiel. Le système intercepte les communications cibles à travers différents canaux tels que les satellites, les micro-ondes et les câbles lors de leur transmission à travers le monde. Turbine a pour fonction de mettre en évidence les données qualifiées de potentiellement sensibles. C'est en quelque sorte un filtre intelligent, capable de mettre en évidence une cible dès que des mots menaçants sont écrits ou prononcés, comme « bombe » ou « arme ». Le système relève les recherches effectuées sur Internet au moyen de mots-clés. Turbulence comprend également des capacités offensives de cyberguerre par l'injection de logiciels malveillants dans des ordinateurs à distance. Avec ce nouveau programme, bien moins coûteux que son prédécesseur, aucune activité malveillante sur Internet ne saurait passer à la trappe. Cependant, nous ne savons pas exactement quels sont les mots-clés qui sont ciblés, ni le degré de sensibilité de détection du programme. Les cibles de la NSA sont restées secrètes jusqu'en juin 2013, date à laquelle Edward Snowden a révélé une série de documents secrets internes de l'agence. Le 4 septembre 2020, la Cour d'appel des États-Unis a déclaré illégal le programme de surveillance de la NSA. En 2010, le Washington Post révèle que la NSA intercepte et stocke quotidiennement 1,7 milliard d'emails, d'appels téléphoniques et d'autres communications. Si l'agence est toujours en fonction après l'ampleur des scandales, cela peut s'expliquer par l'intérêt qu'elle présente pour la sécurité intérieure du pays. L'une de ses missions vise également à soutenir les opérations de combat pour le ministère de la Défense. Grâce à son programme de reconnaissance faciale, l'agence est capable de fournir de précieuses informations sur la localisation des cibles. Pendant la guerre d'Irak, en 2005, elle déploie un programme nommé Real-Time Regional Gateway. Il est chargé de collecter, stocker et analyser toutes les communications électroniques pour fournir des informations sur les insurgés irakiens. Une unité spécialisée de la NSA aide également la CIA à localiser des cibles pour des opérations d'assassinat au Moyen-Orient. Ainsi, la National Security Agency est une institution gouvernementale ambiguë. Elle est aussi légale que nécessaire, selon certains grands de ce monde. Après les attaques du 11 septembre, le président George W. Bush a approuvé le Patriot Act pour renforcer les mesures antiterroristes. Les sections 1, 2 et 9 de ce texte de loi ont autorisé des actions spécifiques de la NSA. Elles ont renforcé la sécurité intérieure contre le terrorisme, permis des procédures de surveillance et amélioré le renseignement. Le 10 mars 2004, un débat a opposé le président Bush à des responsables juridiques sur la constitutionnalité des programmes de la NSA. Le lendemain, le président a signé une nouvelle autorisation pour la surveillance massive des données Internet, outrepassant le Foreign Intelligence Surveillance Act et contournant les lois de protection des civils contre la surveillance de masse. La directive 18 du président George Bush a autorisé un programme de surveillance nommé Projet Highlander, mené par la 513e Brigade de renseignement militaire pour le compte de la NSA. Ce programme impliquait la collecte de conversations téléphoniques, y compris les mobiles, via des stations de surveillance terrestre, aérienne et satellitaire. Les échanges entre citoyens américains, ainsi que ceux d'autres pays, étaient interceptés dans le cadre de ce programme. Qu'ont-ils ensuite fait de ces données? C'est un secret défense. Outre ses fonctions de surveillance, la National Security Agency est à l'initiative de plusieurs avancées politiques et techniques. Elle a influencé les politiques publiques en agissant en tant que conseillère dans les coulisses pour d'autres départements. Dans les années 1990, elle joue un rôle majeur dans les débats sur l'exportation de la cryptographie aux États-Unis. Depuis sa création et jusqu'au milieu des années 90, elle investit dans divers domaines technologiques, y compris la conception de matériel et logiciels spécialisés, la production de semi-conducteurs et la recherche avancée en cryptographie. Par la suite, elle externalise certains de ses travaux de recherche dans des entreprises du secteur privé. Depuis sa création, l'agence n'a cessé d'évoluer technologiquement, avec un département de recherche qui lui est propre. Avec les années, la NSA doit composer avec les nouveaux systèmes de sécurité. Elle livre alors une véritable bataille contre les sociétés informatiques qui parviennent à déjouer, intentionnellement ou non, son système de surveillance. Jusqu'en 2012, la NSA a été incapable de déjouer la sécurité de certains programmes, comme le GNUPG pour les courriels, OTR pour les discussions privées, Whisper Systems pour des applications telles que Signal, TrueCrypt pour le chiffrement de documents et Tor pour une navigation anonyme sur Internet. En revanche, la NSA a réussi à compromettre certaines méthodes de sécurité, telles que le HTTPS, affectant la sécurité de millions de connexions. Elle peut également cibler avec succès les VPN, cruciaux pour la sécurité des entreprises. Pour contrer ces protections, la NSA utilise différents moyens, allant de superordinateurs à des agents infiltrés, pour influencer le développement des systèmes de sécurité. L'agence a, depuis 2007, un vaste contrôle sur l'activité des citoyens sur Internet avec son programme PRISM. Il a permis d'établir des accords confidentiels avec plusieurs grandes entreprises technologiques pour accéder à leurs données d'utilisateurs. Cette opération offre à la NSA un accès privilégié aux communications électroniques, aux emails et aux données stockées par ces entreprises sans la nécessité d'obtenir un mandat. Avec ses nombreuses controverses, la NSA restera l'agence gouvernementale Big Brother, toute puissante et inquiétante, soulevant toujours plus de questions sur le respect des droits individuels et de la vie privée.